Il offre le salut pour le monde. Il vient pour régner. Il a un règne de justice. Il a un règne éternel. Vous voyez, toutes ces choses, encore une fois, annoncées dans l'Ancien Testament, correspondent bien à ce que Jésus a dit et ce que Jésus a fait. Je prends quelques exemples. Michée 5. « Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël, duquel les origines ont été d'ancienneté, dès les jours d'éternité. » Alors, vous voyez, tout d'un coup, ce Messie prend une dimension éternelle. Et ça, c'est un petit peu étrange aussi pour les Juifs. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où celle qui enfante aura enfanté, et le reste de ses frères retournera vers les fils d'Israël. Voilà. Il y a un Messie qui va naître à Bethléem, il vient de l'éternité, et il va être enfanté là. Bon, Ésaïe aussi, l'annonce d'un Messie, alors qui va avoir une vocation pour Israël, mais aussi pour le monde entier. Ce qui, encore une fois, heurte un peu les Juifs en général. Il me dit, c'est peu de choses que tu sois serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. Voilà, ça dépasse largement Israël. C'est un salut pour les bouts de la terre, pour la terre entière. Et puis, Ésaïe 53, que certains ont appelé l'évangile selon Ésaïe, tellement ça rappelle tout à fait le sens. Alors là, c'est vraiment le sens de ce que Jésus a fait à la croix. Il a été transpercé à cause de nos crimes. Vous voyez, encore une fois, transpercé, hein, l'idée de la crucifixion. À cause de nos crimes. Il a été maltraité, il n'a pas ouvert sa bouche. Ça, on le voit lorsqu'il est jugé, il ne se défend pas. Il a eu son sépulcre avec le riche. On sait que c'est Joseph d'Arimathée qui lui a prêté un sépulcre, qui était un homme riche. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Voilà, il nous a rendus justes, nous qui croyons en lui. Il a été compté parmi les coupables. On se rappelle que Jésus a été crucifié entre deux brigands. Et il a intercédé pour les coupables. Il a aussi prié pour ses bourreaux. Et puis alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait même déduire des prophéties la date de la crucifixion du Messie. Alors je me base sur un verset qui dit, dans Daniel chapitre 9, « Sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. La place et le fossé seront rebâtis et cela en un temps de trouble. » Donc il y a là au total 69 semaines. Et après les 62 semaines, mais qui sont consécutives aux 7, le Messie sera retranché et n'aura rien. Bon, voilà la prophétie telle qu'elle nous est donnée, qui fait démarrer le temps à partir du décret de rebâtir Jérusalem. Dans la Bible, nous trouvons un décret pour rebâtir Jérusalem dans un seul passage. C'est dans Néhémie 2, verset 8. C'est le roi Artaxerxès, un Perse, qui a décrété qu'on pouvait rebâtir les murailles de Jérusalem en 446 avant Jésus-Christ. Alors, on va compter à partir de là 69 semaines. Bon, si vous comptez 69 semaines, ça fait environ un an et demi. Un an et demi après 446, aucun écrit biblique ou même juif autre ne nous fait mention d'un Messie qui serait mis à mort. Par contre, alors on se dit qu'il faut compter différemment. Au lieu de compter des semaines de jours, on va compter des semaines d'années. C'est-à-dire au lieu de compter 69 fois 7 jours, on va compter 69 fois 7 ans. Voilà. Et on va faire une toute petite correction du fait que toujours dans les prophéties, une année compte 360 jours. Non pas 361. Alors ça fait un tout petit décalage, mais il n'est pas très grand. Donc si un jour égale un an et un an égale 360 jours, vous faites le calcul. 7 années fois 69 fois 360 jours, vous arrivez à un total de 476 ans. Vous partez de 446 avant Jésus-Christ, vous ajoutez 476 ans et vous obtenez l'an 30. Voilà. Alors tout le monde n'est pas d'accord avec ce calcul. Certains disent que c'est quand même un peu osé de passer de semaines de jours à des semaines d'années. Mais enfin, c'est quand même frappant. Voilà. Hein. Semaines de jours, bon, on n'a vraiment aucun élément pour dire à quoi correspond cette prophétie. Un an et demi après le décret d'Artaxerxès, il ne se passe rien de spécial, on n'a aucun écho dans aucun écrit. Mais si on applique simplement cette règle de changer les jours en années, on arrive à l'an 30. Le Messie sera retranché et n'aura rien. Voilà. Prédiction de la mort du Messie. Voilà, donc ça c'était le premier aspect, les prophéties. Alors, nous avons terminé avec la première partie, donc c'était des prophéties, des annonces du Messie. Maintenant, nous allons essayer de trouver dans l'Ancien Testament des récits ou des personnages, ça peut être aussi des animaux ou des objets, qui, d'une manière poétique, pourraient évoquer la vie de Jésus. On va commencer par les personnages. Alors, pourquoi faire ceci ? Pourquoi chercher à voir Jésus dans les Écritures, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament ? Eh bien, premièrement, parce que Jésus lui-même l'a fait. Il s'est comparé au serpent d'airain. Il a dit que, comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et il s'est comparé aussi avec David, avec Jonas, bon, j'y reviendrai. Et puis, on se souvient qu'après sa résurrection, quand il a rencontré les disciples d'Emmaüs, il leur a montré dans les Écritures toutes les choses qui le concernent. Donc Jésus a pratiqué lui-même, on peut dire, ce type d'étude biblique. D'ailleurs, on aurait bien aimé être avec les disciples d'Emmaüs pour assister à l'étude biblique de l'Ancien Testament vue par Jésus lui-même. Et puis les apôtres aussi ont pratiqué ce type de lecture de l'Ancien Testament. Dans les premières prédications, on voit que surtout l'apôtre Pierre se sert de versets de l'Ancien Testament pour expliquer ce qui s'est passé par rapport à la crucifixion. Et puis dans les épîtres également, bon, évidemment, surtout l'épître aux Hébreux, qui s'adresse à des Juifs, dans laquelle l'auteur essaie de montrer que tout ce qui est dans la loi, dans la Torah, en fait, est une préfiguration de ce qui concerne le christianisme. Et donc, il faut parler de type. Bon, c'est un mot qui est un peu désuet, le mot type. Alors, quand je vais utiliser le mot type, c'est pas un gars, c'est pas non plus un modèle de voiture. C'est l'idée, donc c'est le. J'ai cherché dans le dictionnaire, alors on met bien un terme religieux, c'est le troisième sens du mot type. Un terme religieux qui signifie préfiguration ou image. Il s'agit donc de personnages, d'animaux, d'objets, d'événements de l'Ancien Testament préfigurant un personnage ou un événement du Nouveau Testament. Et à ce moment-là, le personnage qui est préfiguré, qui se retrouve être la réalité ultime qu'on trouve dans le Nouveau Testament, s'appelle antitype. Voilà, donc ce sont des types qui annoncent des antitypes. C'est pour se familiariser à ce vocabulaire que je vais utiliser. Donc quand je vais parler de type, ce sont des préfigurations. Alors, je vais commencer par les personnages. Bon, j'ai fait ma petite classification. Déjà, j'en ai choisi 14, il y en aurait plus, il y en aurait beaucoup plus. Et j'ai essayé de classer entre ceux qui me paraissent majeurs et ceux qui me paraissent mineurs. Ceux qui sont majeurs, c'est parce que j'y trouve plusieurs aspects de la vie du Seigneur Jésus dans leur vie. Et les types mineurs, peut-être qu'ils ne lui ressemblent que par un seul aspect, à un moment donné, par exemple. Donc c'est un peu arbitraire, c'est ma classification à moi, d'autres le classeront différemment. Alors on va commencer par Isaac. Il y a ce récit surprenant de Abraham et Isaac, et Dieu va demander à Abraham de prendre son fils, son unique, puisqu'il est le fils attendu depuis si longtemps, depuis 25 ans, qui est né, qui est un jeune homme maintenant. Dieu va lui dire « Prends ton fils, ton unique ». Celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en dans le pays de Morija et offre-le en holocauste. » Alors on voit vraiment ici une évocation de Dieu le Père offrant son fils pour l'humanité. Et puis ils marchèrent les deux ensemble, et ça revient plusieurs fois. Donc on voit là la communion, moi et le Père nous sommes un, disait Jésus, la communion étroite qu'il y avait entre le Père et le Fils. Et puis on voit que Abraham ligote son fils Isaac, le met sur l'autel par-dessus le bois. Comme Dieu à la croix abandonne son fils à son propre châtiment, pour qu'il puisse porter les péchés de l'humanité. Et c'est quand même frappant, ça va d'ailleurs à l'encontre de toute la suite du récit biblique, où il n'est vraiment pas question du tout dans la loi de Moïse d'offrir un enfant en sacrifice. Bon, on connaît la fin de l'histoire, c'est que Dieu voulait simplement tester la foi d'Abraham, pour voir jusqu'où il allait lui obéir. Mais voilà, pour un temps, on a l'impression qu'il va offrir son fils comme Dieu a offert son propre fils en sacrifice pour nous. Et puis, alors, l'histoire, la fin de l'histoire montre qu'il y a tout d'un coup, Dieu arrête Abraham, il dit de ne pas faire ça, et il était prêt à le faire. Et puis il voit là un bélier, et il va prendre le bélier et l'offrir à la place de son fils. Et c'est là que, vous voyez, l'image change. Cette fois-ci, c'est le bélier qui va représenter, sous un autre aspect, le Seigneur Jésus, qui est offert à notre place. Et là, Isaac devient maintenant une image plutôt de l'humanité, et le bélier va être offert à sa place. Vous voyez, alors ça, c'est commun à toutes les images. Les images sont limitées et quelquefois les images se superposent ou se succèdent. Vous voyez ? Et un même individu peut tantôt être une image du Seigneur Jésus, tantôt être une image d'autre chose. Parce que l'image est toujours inférieure le type, si vous préférez, est toujours inférieur à l'antitype. Il est toujours imparfait. Hein? Voilà, il faut plusieurs images pour comprendre ce qu'a été le Seigneur Jésus. Donc ça, c'est Isaac. Deuxième image, très belle aussi, je trouve, c'est Joseph. Et là, je dois dire que je la trouve extrêmement convaincante pour une raison simple, c'est qu'elle n'a jamais été utilisée dans le Nouveau Testament. Si vous lisez le livre des Actes, les prédications des apôtres ou les épîtres, jamais ils n'ont utilisé la vie de Joseph pour dire que Jésus était le Messie. Et pourtant, ils auraient pu le faire. On a l'impression qu'il y avait tellement à faire dans l'Ancien Testament que même les apôtres ont oublié des personnages extrêmement convaincants. C'est la même chose pour Isaac. Hein. Jamais dans le Nouveau Testament, vous n'allez trouver une comparaison entre le sacrifice d'Isaac et le sacrifice de Jésus. Par la foi, Abraham offre Isaac. C'est tout ce qu'il en est dit dans le Nouveau Testament. C'est jamais dans le sens du Père qui offre son fils. Vous voyez, même les apôtres ont été pris de court tellement il y avait à faire. Quoi. Et ça, je trouve très convaincant. Ça ne fait pas du tout récupération. Ils n'ont pas du tout récupéré. Ils n'ont même pas vu la moitié de ce qu'on pouvait voir. Enfin, peut-être qu'ils l'ont vu, je ne sais pas. Hein, mais en tout cas, ils n'ont pas utilisé, on ne le retrouve pas dans les écrits, comme argument pour dire que Jésus est le Messie. Alors, des détails dans la vie de Joseph. Donc, on va comparer Joseph au Seigneur Jésus et tout d'abord, Jacob, son père, à Dieu le Père. Israël aimait Joseph plus que tous ses fils. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ensuite, Jacob va envoyer Joseph vers ses frères. Je t'enverrai vers eux. Dieu a envoyé son fils unique dans le monde. Ses frères le voient venir de loin, se dire l'un à l'autre, venez, tuons-le. De la même manière, les prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil, je cite des versets uniquement, hein, là, du Nouveau Testament et de l'Ancien, je les mets en comparaison, tinrent conseil pour se saisir de Jésus par ruse et pour le faire mourir. Ils vendirent Joseph 20 pièces d'argent. Les sacrificateurs comptent 30 pièces d'argent pour Jésus et le donnent à Judas. Ensuite, on voit que Joseph va être mis en prison. Bon, vous connaissez peut-être l'histoire, donc avec la femme de Potiphar, il est accusé à tort, il se retrouve en prison. La prison où les prisonniers du roi étaient enfermés, il me semble que cette prison peut représenter la mort. C'est là que les humains sont enfermés. Hein. À un moment donné, quand c'est fini, eh bien, on est enfermé, on n'a pas le droit, on ne peut pas échapper autrement, on va dans la mort. Et là, on est prisonnier. Alors, Joseph va être aussi mis dans la prison, donc, comme Jésus est mort. Et donc, en même temps, on connaît l'histoire, il va là être l'objet de la délivrance d'un des deux prisonniers qui se retrouve avec lui, c'est-à-dire les chansons du Pharaon. Il va le sortir de là. De la même manière que Jésus est entré dans la mort et par cela, il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort et il a délivré ceux qui étaient asservis par la crainte de la mort. Voilà. En rentrant dans la mort, Jésus délivre ceux qui sont morts. Et il y a donc avec lui deux prisonniers dans la prison. Il y a donc les chansons et le panetier, vous connaissez l'histoire. Et le panetier va finalement mourir, être mis à mort, alors que les chansons vont être libérées. On peut faire le rapprochement avec les deux brigands qui sont sur la croix. L'un va se convertir, va reconnaître que Jésus est le roi, en quelque sorte, et donc va être sauvé. Jésus lui dit « Tu seras avec moi dans le paradis », et l'autre va mourir dans ses péchés. Vous voyez, on peut les comparer à les chansons et au panetier. Le pharaon t'élèvera et te rétablira, dit à les chansons. Jésus dit à un des brigands, tu seras avec moi dans le paradis. Et alors, vous voyez, bon, il faut quand même adapter les situations. Ici, ensuite, c'est le pharaon qui va plutôt représenter Dieu le Père. Parce que le pharaon va sortir Joseph de la prison. Et à partir de là, vraiment, c'est toujours le pharaon qui représente Dieu. On appela Joseph et on le fit sortir de la fosse et il vint vers le pharaon. Et de même manière, il est dit de Dieu, sa puissance a opéré dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et il l'a fait asseoir à sa droite. Voilà. Jésus a été sorti de la mort par son père et son père l'a fait asseoir à sa droite comme le pharaon a appelé Joseph auprès de lui. Donc Joseph va interpréter le rêve du pharaon et donc le pharaon l'établit sur tout le pays. Alors regardez le nom qu'il lui donne. Le pharaon appela Joseph Tsaphnath Paneach et ce qui signifie sauveur du monde. C'est quand même incroyable ça, de l'avoir appelé comme ça. Alors, de la même manière, Jésus a été ressuscité entre les morts, il s'est assis à la droite de Dieu, et Dieu l'a exalté comme prince et sauveur. Nous lisons dans le livre des Actes. Voilà. Lui aussi a été déclaré sauveur du monde. Ensuite, Joseph va retrouver ses frères qu'il avait vendus au départ, et on voit qu'il leur dit, écoutez, bon, bien sûr, vous m'avez vendu, mais ne le voyez pas d'un mauvais œil, d'un œil chagrin. Dieu l'a permis ainsi parce que, d'une certaine manière, bon, c'est que Joseph a pu organiser les collectes de blé et ainsi sauver la vie des Égyptiens et aussi de sa famille.